Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Libre Propos, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'évêque de Chartres, Monseigneur Philippe Christori. Rendez-vous présenté cette semaine par Émilie Glory. Bonjour Père.
Bonjour Émilie, je suis très content de passer ce moment avec vous parce que je vois d'être à la radio avec nos auditeurs et que ce soit Christophe qui est absent ce jour pour une raison familiale un peu douloureuse, mais... Voilà, ensemble, avançons avec joie.
On pense bien à lui, évidemment. Alors, votre agenda est toujours naturellement bien rempli. Parmi vos nombreuses activités et célébrations à venir, il y en a une qui a retenu mon attention. Vous serez de permanence à la crèche de la cathédrale de Chartres samedi 21 décembre prochain. Alors, la crèche, c'est une tradition de Noël, bien sûr, mais quel est le symbole qui se cache derrière? Quelle est un petit peu sa signification profonde?
La crèche est une... chacun imagine un peu une crèche avec des personnages, avec notamment la Sainte Famille, donc Marie, Joseph, son époux, et cet enfant Jésus, entourés d'autres personnages qui sont autour, donc les bergers qui vont être appelés par les anges, avec leurs moutons, avec leurs troupeaux. On aura dans quelques temps les mages, qui sont des rois peut-être, en tout cas des gens qui arrivent de l'Orient, attirés par une étoile. Et puis il y a la tradition de mettre des santons, pensez aux crèches de Provence. Mais l'origine de la crèche, elle vient de Saint François d'Assise, qui est un grand saint italien du XIIIe siècle, je crois, qui a imaginé mettre en scène l'évangile pour que les gens, le peuple, les gens qui étaient avec lui, en fait, s'émerveillent. Et il a réussi quelque chose qui perdure maintenant de par le monde, avec beaucoup de traditions très, très, très belles de crèche. Voilà.
Alors la crèche, vous l'avez dit, c'est une histoire de famille, la famille que l'on sait au cœur des préoccupations de l'Église catholique et donc du diocèse de Chartres. Une journée des couples et des familles est organisée le dimanche 15 décembre, vous y serez. L'occasion, j'imagine peut-être, de préciser votre vision de la pastorale familiale.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que la famille, c'est à la fois la cellule de base d'une société. Et puis c'est aussi pour l'Église le lieu où on incarne en premier des relations entre les personnes et des relations avec le Seigneur. Au-delà, bien sûr, on aura d'autres formes de relations dans le travail, dans les activités ludiques et autres. Alors on a déjà fait une rencontre en novembre avec des familles, des jeunes familles, où peut-être 20 ans, 25, 30, 40 ans, on était assez nombreux, il y a même 53 enfants qui étaient présents. Ce qu'on fait dimanche 15, c'est un petit peu différent. On a proposé à des familles très diverses, à des couples très divers. Certains sont des jeunes convertis, d'autres familles plus classiques, on peut dire. Il y aura une famille de divorcés, remariés aussi. Il y aura des personnes veuves. En tout cas, on voudrait réfléchir ensemble, accompagné par un couple qui est un peu comme un couple d'animateurs. Quelles sont les priorités pour le diocèse vers les familles? Est-ce que c'est plutôt réfléchir à la préparation au mariage? Est-ce que c'est accompagner les jeunes familles? C'est que faire pour des couples plus âgés? Que faire face au départ des enfants? Face au départ après le travail quand on rentre en retraite? Enfin, il y a différents états de la vie familiale, différentes saisons de la vie. Et donc, on voudrait voir dans quelle mesure on oriente notre pastorale familiale.
Alors, il s'agit quand même de revenir en communauté sur des expériences qui sont très personnelles et donc par essence très particulières. Si j'osais, je vous dirais, qu'est-ce que l'Église vient faire dans tout ça?
L'Église de tout temps a reçu la famille comme un don de Dieu. Dans l'Écriture, dans la Bible, on trouve au début de la Bible, dans la Genèse, on trouve le récit de la création de la première famille. Un homme, une femme, Adam et Ève, qui sont un peu nos parents, si on veut, dans l'histoire humaine. C'est un peu comme un grand conte qui raconte que Dieu a voulu placer au cœur de sa création un homme, une femme, dans une grande communion, et les appelant à animer la vie, animer la réalité créée, et en même temps avoir comme fruit leur joie et des enfants. Donc, depuis le début, la famille a toujours été vue comme même l'église domestique. Donc, la petite église où on est ensemble à bénir Dieu, à louer Dieu et en même temps à incarner l'amour à travers l'éducation, à travers les loisirs, à travers le soutien mutuel. Donc, c'est important.
Alors, Père, en préparant cette émission, je suis allée surfer, comme on dit, sur le site de l'Église catholique de France, et j'ai découvert une proposition qui m'a interpellée, celle de se préparer à Noël sur Internet. Il s'agit d'une page, en fait, qui regroupe plusieurs options, évidemment des options gratuites, qui, effectivement, permettent d'aborder Noël spirituellement sur le net, des retraites en ligne proposées notamment, mais pas seulement, par le Carmel de Paris, ou encore par les Dominicains à travers Retraite dans la ville. Ça, c'est une initiative qu'ils reconduisent chaque année depuis 2011 et qui a donc beaucoup de succès. Alors, j'ai deux questions pour vous. Quel est l'intérêt de ce genre d'initiative pour les croyants? Et est-ce que c'est une forme que vous aimeriez développer sur le diocèse de Chartres?
La préparation de Noël, bien sûr, on voit beaucoup de gens qui préparent leur maison, qui mettent des décorations. J'ai vu des villages incroyables, près de Tivard, là au sud de Chartres. J'ai vu des jardins avec des guirlandes de toutes les couleurs, mais en quantité. Les Chinois qui vendent ça doivent faire de grosses affaires, je pense. Mais c'était très joli, enfin, c'était un peu décor, quoi. Mais sinon, on peut préparer spirituellement, bien sûr, son cœur, sa famille, à travers ce temps de l'Avent, hein, qui est un temps de 4 semaines, qui nous prépare à Noël. Alors, de fait, le web, le Internet est aujourd'hui un forum où, en tout cas, beaucoup de gens aiment aller pour plein de choses. L'Église y est bien présente, les chrétiens aussi, donc sont bien présents, chrétiens catholiques, mais aussi chrétiens protestants ou orthodoxes. Et notamment, certains ont choisi de proposer des petits parcours quotidiens, avec des étapes quotidiennes, des textes, des méditations, qu'on peut retrouver soit sur Internet, soit sur une application smartphone, pour préparer son cœur. Et je vois, même dans le train, parfois, enfin le train en ce moment, il roule moins, mais des gens qui, effectivement, quotidiennement, consultent ces textes, méditent. Donc c'est une belle opportunité. Les Dominicains sont par nature un ordre religieux d'enseignants, donc ils ont fait ça. Et je crois que leur retraite dans la ville, ça touche des milliers de personnes. Enfin, c'est un nombre énorme de gens qui suivent ces propositions. Alors au niveau du diocèse, on va être plus modeste, parce que d'abord, ce qui se fait bien ailleurs, on va en profiter sans pour autant le reproduire identiquement. On a proposé dans le diocèse, qui est quand même un parcours de rencontres fraternelles à domicile, on a mis en ligne des outils comme des petites fiches de déroulé avec un texte biblique, des questions, un chant. Il y a une vidéo que j'ai pu faire et qui est en ligne aussi sur le site diocésain pour être un petit peu éclairé par une méditation sur un thème spirituel. Et donc les gens le font. J'ai vu encore hier soir des gens qui se retrouvent à quelques-uns à domicile et qui font ce parcours.
Alors, ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont des retraites et des méditations qui sont validées quand même par l'Église catholique de France. Est-ce qu'il ne faut pas aussi inciter à une certaine vigilance en matière d'enseignement religieux sur Internet?
Oui, Émilie, vous avez raison, parce que sur Internet, on trouve, comme on dit, à boire et à manger. Il y a tout et son contraire. Il y a aussi des gens qui profitent de la crédulité des gens pour proposer des choses, et ça peut être des véritables sectes qui détournent les gens. Donc, les gourous ne manquent pas. Hein. Donc, je pense que si on se fie aux sites qui sont promus par l'Église catholique, par les paroisses, par des ordres religieux comme le Carmel que vous citiez ou les Dominicains, on est dans les bons rails, quoi. C'est bien.
Alors le risque, c'est peut-être aussi de rester en ligne et de ne pas aller à la rencontre des personnes. Donc c'est peut-être une démarche complémentaire.
C'est ça. En fait, je me rappelle d'un ami qui est Éric Sellerier, qui est un pasteur protestant qui a créé un des plus grands sites chrétiens francophones protestants, qui s'appelle topchrétien.net, et qui me disait, notre souhait, c'est vraiment de contacter par Internet des personnes qui cherchent Dieu, qui cherchent des réponses à leur quête spirituelle, mais de les rapprocher aussi vite que possible d'une communauté locale, et qui était d'ailleurs très désireux de pouvoir réorienter des chrétiens, peut-être qui avaient un peu pris leur distance, mais qui étaient de culture catholique, vers des paroisses catholiques. C'est vrai que, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, ne vous contentez pas du net, allez dans les paroisses, allez rejoindre des communautés, parce que la religion nous relie justement, et nous relie entre personnes, et que la relation personnelle est vraiment nécessaire et indispensable.
Alors, il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. J'aurais aimé parler avec vous du sacrement de réconciliation. Vous avez, le 12 décembre dernier, rencontré des lycéens à l'Institut Notre-Dame de Chartres pour un temps de confession. Alors, pourquoi est-ce que le sacrement de réconciliation est-il particulièrement important en ce temps de l'Avent?
Vous savez, le Christ a voulu nous sauver de ce mal qui parfois nous habite, hein, qu'on appelle le péché. Le péché, c'est au fond une fausse route, quoi. C'est j'ai pris un cul-de-sac, je me suis trompé, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai blessé, j'ai oublié quelqu'un que je devais aider, par exemple. J'ai ignoré Dieu. J'aurais dû aimer, je ne l'ai pas fait. Ça nous encombre le cœur. Ça nous rend triste. Au fond, je sais pas, si quelqu'un insulte quelqu'un d'autre, il ne peut pas en tirer une joie. Si quelqu'un va voir un site porno sur Internet, il ne peut pas en tirer une joie. Il aura peut-être un plaisir immédiat, mais ensuite il sera triste. Il se dira, mais ce n'est pas ce que je suis profondément, ce n'est pas ce que je veux être dans ma vie. J'aspire à une plus belle humanité en relation aux autres. Et le péché, souvent, coupe la communion. Avec Dieu, bien sûr, mais avec les autres aussi. On est comme divisé intérieurement. Et or, Jésus a dit aux apôtres, pardonnez les péchés. Ce que vous aurez pardonné sera pardonné. Délier, ce que vous aurez délié sera délié. Donc, il a institué ce sacrement du pardon, qui est assez incroyable, parce que certes, on va dire, allez se confesser, on a un peu peur, il faut voir un prêtre. Il y a un secret absolu, c'est qu'un prêtre qui trahirait le secret de confession ne pourrait plus être prêtre, il serait excommunié. Donc, ce secret est absolu pour qu'il y ait une confidentialité, pour qu'il y ait une confiance aussi.
C'est un sacrement qui impressionne un petit peu, j'allais dire, surtout pour peut-être les catholiques qui ne sont pas ou peu pratiquants.
Oui, ça impressionne, et en même temps, c'est une chance incroyable. Je me rappelle d'avoir vu une femme qui était juive de New York et qui me disait « Nous, on a le Yom Kippour, c'est ce jour du grand pardon où on célèbre le pardon que Dieu donne avec le fameux bouc émissaire qui porte le péché du peuple. » Mais elle me disait « Personne ne me dit à moi que je suis pardonné. » Et elle me disait « En fond, vous avez de la chance, vous les catholiques, parce que vous voyez un prêtre, qui est-ce qu'il est, qui est aussi un pécheur, qui se confesse aussi, à qui vous dites simplement, ou devant qui vous dites simplement « Seigneur, je demande pardon pour telle chose. » Et à la fin, le prêtre vous dit, mais voilà, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans cette parole-là, nous avons la confiance que tout est pardonné et qu'on repart l'âme tranquille. Alors, certains diront, c'est facile, vous... Ah ben non, c'est pas facile, justement. Et même si c'était facile, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas recevoir Et ça nous rend heureux, et du coup, on va retrouver qui son épouse, qui ses enfants, qui son collègue, avec une nouvelle joie, une nouvelle disposition, au fond, pour aimer. Et je crois que c'est tout le monde en bénéficie, quoi. C'est que bénéf, quoi.
Et d'où son importance en ce temps de l'Avent pour préparer.
Et on le propose particulièrement pour se préparer aux grandes fêtes, donc Noël.
Père, merci à vous. Merci à Simon Martin qui a assuré la technique de cette émission. Chers auditeurs, vous pouvez la réécouter ainsi que les précédentes sur notre site internet radiograndciel.fr. Bonne semaine à toutes et à tous.